Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Vous êtes sur France Culture et dans notre série Cinéma et médecine, puisque nous examinons, nous disséquons même, une série, ou bien un film, ou bien un ouvrage, qui pose des problèmes médicaux. Et nous avons donc deux spécialistes qui vont l'un plutôt analyser le cinéma et l'autre plutôt le développement médical. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est en compagnie de Philippe Charlier, qui est médecin légiste, anatomopathologiste, archéo-anthropologue.
Oui, exactement.
Bonsoir. Bonsoir. Et Pierre Langlais, qui est critique de films et plutôt de séries d'ailleurs, puisque c'est vraiment sa particularité, à Télérama, que nous aurons l'occasion de venir sur ce thème-là, sur le thème de, on va dire quoi, le côté policier du médecin qui va essayer de détecter les causes des morts inexpliquées. Alors bien sûr, la médecine légale, ce n'est pas que cela. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais venons-en d'abord peut-être quelques instants à Body of Proof, je dirais, de Chris Murphy.
Megan Hunt.
Vous l'avez découverte dans Desperate Housewives. Retrouvez Dana Delany en médecin légiste pas du tout conventionnel.
On ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. C'était votre maîtresse depuis combien de temps?
Quoi?
Hier, Angela a couché avec un homme ayant subi une vasectomie et même sans sperme, je peux faire correspondre l'ADN.
Le flic, c'est moi. Je connais un tas de médecins légistes et aucun d'entre eux ne m'a jamais emmerdé autant que vous.
Mais il n'y en a aucun aussi doué que moi.
T'as des idées de génie avec les morts, mais avec les vivants, t'es nul.
Si je prends autant de soin des morts, c'est parce qu'ils ne peuvent plus s'exprimer.
Body of Proof.
Voilà, Body of Proof, donc Pierre Langlais, vous qui êtes critique de série, c'est peut-être pas la série la plus fascinante pour vous,
non,
puisque vous en connaissez beaucoup,
non.
Vous allez nous faire part un peu de votre analyse.
Comme on dit sur Télérama, c'est 0T, donc c'est la note la plus basse, c'est effectivement, mais c'est intéressant de l'apprendre parce que ça a été récemment une des séries de médecine légale, la plus totalement médecine légale, c'est-à-dire que historiquement, alors la première d'entre elles date du milieu des années 70, s'appelait Quincy aux États-Unis, elle a très bien marché, elle a d'ailleurs un certain impact sur le nombre à l'époque de jeunes américains qui voulaient faire de la médecine légale. Elle est assez méconnue chez nous, mais depuis les années 2000 et l'explosion des séries type Les Experts, NCIS, Bones, etc., on a vu le nombre de personnages de médecins légistes exploser, au point que ces séries comme Quincy, dont tous les personnages sont des médecins légaux, sont revenus. Il y a eu dans les années 2000 une série qui s'appelait Preuve à l'appui, dont tous les personnages étaient des médecins légaux, et donc Body of Proof. Et ça continue, et il y a une bonne douzaine de séries américaines mortes et enterrées ou encore vivantes qui ont affaire et qui utilisent ce genre de personnage. La Body Proof est enterrée pour le coup, elle.
Américaine, et est-ce qu'il y a d'autres? Par exemple, est-ce qu'il y a une série française?
Oui, il y en a une qui est d'ailleurs en ce moment en diffusion sur TF1 qui s'appelle Balthazar avec Thomas Sisley et qui va reprendre les codes de ce genre de série-là et de certaines spécificités des personnages de légistes qui sont très souvent présentés comme des marginaux ou des originaux ou des gens un peu bizarres parce qu'ils vivent enfermés dans le sous-sol avec les Maccabées. Et d'ailleurs, c'est sans doute pas un hasard s'il y a un certain nombre de ces personnages-là qui sont aussi des héros de séries fantastiques. Il y en a deux qui sont plus connus que les autres. Une qui s'appelait True Calling et dont l'héroïne était une jeune étudiante en médecine qui travaillait à la morgue et qui, quand elle touchait les morts, voyageait dans le temps et avait 24 heures pour empêcher qu'ils meurent. Et une série qui est en cours de diffusion, qui va bientôt se terminer, qui s'appelle I Zombie, et comme qui son titre l'indique, l'héroïne est une zombie qui a besoin de manger un morceau du cerveau qui se nourrit en fait des Maccabées des morts de la morgue où elle travaille, et qui, quand elle mange un morceau de cerveau, a des souvenirs de la personne dont elle a mangé un morceau de cerveau, et donc elle va aider la police. Donc quand même, on va comme très très loin dans l'imagination pour compliquer un petit peu ces histoires là.
On est dans le registre du policier, du détective, hein, c'est du Sherlock Holmes, je dirais, tournicoté dans différentes façons, qui tient en haleine, surtout que souvent le médecin légiste va trouver la preuve qui renverse complètement les hypothèses.
Il fait partie de cette équipe qui s'est complexifiée depuis donc le début des années 2000 et les experts qui sont l'équipe de police scientifique. Le médecin légiste existe dans les séries avant que la police scientifique devienne une sorte de mode, hein, ce qu'on appelle en anglais les forensics, donc vraiment les séries policières scientifiques, c'est la meilleure traduction que je puisse en donner en français. Et du coup, on a commencé à se dire que tout ne se jouait pas nécessairement entre le moment où on trouvait le cadavre sur la scène de crime, l'interrogatoire des suspects et la résolution, mais on a rajouté des épaisseurs. Donc on a une épaisseur qui est devenue quasi systématique, qui est cette scène où on est dans la morgue, dans l'endroit du commissariat où on va allonger le corps et où on va essayer de trouver des éléments. Et c'est vrai, et d'ailleurs on pourra remonter jusque Twin Peaks au début des années 90, ce moment où on va observer dans le moindre détail le corps de la victime est très intéressant d'un point de vue du suspense, puisque le corps devient lui-même une sorte de terrain de jeu, mais aussi d'un point de vue de ce que ça peut dire, d'un point de vue métaphorique, du rapport au corps, de ce que représente la victime, en particulier si c'est un corps féminin, où on va avoir un regard qui est différent entre un corps masculin et un corps féminin. Bref, le corps va devenir un objet de police, et plus seulement cette chose abstraite qui gît là, quelque part, dans un coin de la pièce, au moment où on va découvrir le crime.
Mais alors, dans ce film, The Body of Proof, je trouve que Megan Hunt, qui est donc la médecin neurochirurgien qui devient médecin légiste pour de différentes raisons, elle a quand même une façon, je trouve, très, très, très humaine, hein, je dirais, de faire parler les corps. Elle le dit d'ailleurs, et parfois, par exemple, il y a des scènes, enfin, il y a un épisode où il y a une personne qui a été disséquée, qui a été coupée en morceaux, et elle va avoir donc une main et un pied, et à partir de ça, de cet examen en détail, elle va reconstituer tout un tas d'événements qui sont arrivés à la personne qu'on va retrouver ensuite, qui sait, mais au début, on n'a pas grand-chose.
Alors, deux choses par rapport à ça. Alors, un vrai médecin légiste, je pense, doit passer un grand moment de rigolade quand il regarde ces séries-là, parce que je pense que même s'ils ont souvent sur les plateaux des médecins légistes qui doivent les conseiller, c'est évidemment fantaisiste sur la vitesse à laquelle on peut trouver, grâce à un truc coincé sous un ongle, on remonte toute l'histoire familiale de la personne. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Mais ceci étant dit, ce qu'a fait Body of Proof et ce que la plupart des médecins légistes des séries ne font pas, c'est une forme d'humanisation du cadavre. C'est le cas quand on est dans une série fantastique et que le but est de remonter le temps parce qu'on voit littéralement le cadavre en vie. C'est aussi le cas dans des séries où il va y avoir un proche d'un des médecins ou des choses comme ça qui est victime. Mais très souvent, le cadavre est déshumanisé. On le prive même de façon très métaphorique de ses parties génitales, puisqu'il y a très souvent une lumière extrêmement forte qui est portée sur l'entrejambe pour pas que, évidemment, sinon c'est censuré, les télés américaines étant particulièrement puritaines, on peut pas montrer un sexe. Et donc, en fait, il y a une sorte de froideur. Enfin, le cadavre est vraiment montré dans tout ce qu'il y a de plus chirurgical et de plus propre. Et ce que fait cette série-là, c'est qu'on nous rappelle que le cadavre était vivant il y a pas longtemps. Et ça, c'est une thématique qui est très très présente en ce moment, où la mort est revenue très fort dans les séries. On a énormément de séries qui mettent en scène des zombies ou des revenants ou des figures macabres, des fantômes, où en gros la mort est de plus en plus en vie dans les séries télé.
Philippe Charlier, vous qui êtes donc médecin légiste, je dirais, qui avait laissez-moi dire deux trois mots sur le nombre de d'écrits que vous avez fait, hein, autour d'Autopsie des morts célèbres, Quand la science explore l'histoire, Médecin des morts, les récits paléopathologiques, Le secret des grands crimes de l'histoire. Donc il y a de quoi se passer quelques soirées à vous lire. Je sais pas où vous trouvez le temps quand même d'écrire tout ça. On a dit d'ailleurs que vous étiez l'Indiana Jones des cimetières. Je sais pas ce que vous appréciez dans...
Mes enfants apprécient plus que moi cette boutade, je pense.
Voilà. Ceci étant, vous êtes docteur en médecine, vous êtes docteur ès lettres et ès sciences, vous êtes directeur de recherche d'enseignement au Quai Branly, vous êtes mis en disponibilité de votre activité médicale que vous aviez à l'hôpital de Garches depuis 2013. Et donc, vous êtes passionné visiblement par l'histoire, par cette approche, on va dire, qui tombe un peu dans le sens de notre entretien aujourd'hui, c'est-à-dire médecine et société. Hein, c'est vraiment la société, son histoire et ses énigmes, bien entendu. Juste un point avant de vous laisser parler, c'est que dans The Body of Proof, on a la morgue est quand même nickel. Elle est nickel chrome, hein. C'est super propre, super beau, les fenêtres sont grandes. Enfin, quand je pense, malheureusement, pour d'autres raisons, où je suis allé à la morgue dont on parlera peut-être tout à l'heure, je dirais qu'elle l'a râpée.
C'est pas tout à fait ça.
C'est pas tout à fait ça, hein. Incontestablement, On est dans un autre monde.
Non, c'est plutôt vétuste, en effet.
C'est plutôt vétuste.
Mais je pense qu'il y a une esthétisation de la mort qui est autant dans l'entourage de la mort, c'est-à-dire la salle d'autopsie, c'est-à-dire la salle de présentation du cadavre, quelque chose qui est à la fois esthétisé et qui fait la part vraiment de l'imaginaire, soit du cinéma, soit de la série. Dans les conditions de travail, en effet, sont beaucoup plus lugubres pour le coup, beaucoup plus froides, beaucoup plus lentes aussi, pour être très, très simple, c'est beaucoup moins sexy quand on travaille en médecine égale du quotidien. On arrive le matin, on a notre planning d'autopsie qui est prévu, avec une à trois autopsies par personne, sur le planning de service, et on prend les tickets, les autopsies les unes après les autres, on potasse le dossier avant, on rencontre les policiers, et puis ensuite, on pratique l'autopsie en présence d'un ou de plusieurs policiers, on rencontre au-delà, et ensuite on enchaîne les autopsies les unes après les autres. C'est pas tout à fait la même chose, et on n'a pas les résultats de l'ADN immédiatement, de la dactylographie ou scopie, c'est-à-dire l'analyse des empreintes digitales. On fait des examens scanographiques aussi en complément. Il faut bien imaginer qu'un cadavre, pour nous médecins, légistes, est un patient comme n'importe qui. Il y a la dernière phrase de l'héroïne de Body of Proof est très très bonne. Et là pour le coup, c'est un sentiment que je partage complètement avec elle. Elle dit « Moi j'ai voulu faire de la médecine égale parce que je voulais m'occuper de ceux dont plus personne ne s'occupe. » Et ben c'est exactement ce qui, moi, m'a poussé à faire la médecine égale. Je voulais m'intéresser à ceux, je voulais être le dernier praticien, médecin, à prendre soin, non pas dans le sens thérapeutique, mais dans le sens prendre soin, s'occuper de ses patients, du bout de la vie et du début de la mort. C'était ça qui m'intéressait. Et le médecin légiste, c'est un médecin à part entière. Il sauve des vies, le médecin légiste. Pas simplement quand on appelle un médecin dans un avion et qu'il n'y a qu'un légiste, mais aussi quand on met en évidence des maladies familiales lors des autopsies, eh bien on peut prévenir des morts subites chez d'autres personnes, des membres de la famille, etc. Donc il y a toute une vision complètement stéréotypée qu'on voit dans les séries, mais aussi dans les films, autour du médecin légiste qui est vieux, sociopathe, renfermé, comme un rat de bibliothèque, totalement névrosé ou
c'est pas
ou
votre
autre.
Genre, hein. Ça c'est sûr.
J'espère, merci. Merci à vous du compliment, qui ne correspond pas exactement à la réalité.
Pour revenir sur ce fait, comme vous dites, vous arrivez le matin, finalement vous avez des tickets, vous avez des autopsies à faire. Ce qu'il y a dans la série, là, dont on vient de discuter, mais les autres aussi, on a l'impression que le médecin légiste à l'américaine est beaucoup plus impliqué dans l'enquête policière. C'est-à-dire qu'il est presque, policier. Hein. C'est-à-dire qu'il
évalue même. C'est du fantasme de la série, où, y compris les experts. Je me rappelle avoir fait un reportage dans la police scientifique parisienne, enfin de la région parisienne, où on me disait si vous croyez qu'on est nous sur les scènes de crime en permanence à essayer de résoudre les crimes, non, on passe énormément de temps en laboratoire, puis on passe pas notre temps forcément à s'occuper de cadavres et qui ont été victimes de meurtres mystérieux. C'est essentiellement un travail de gens qui sont décédés de morts plus ou moins naturelles. Si j'ai bien compris.
Assez souvent, ce sont des morts naturelles, en effet. En fait, la série qui ressemble le plus à la réalité des médecins légistes, paradoxalement, c'est Dr House.
Philippe Charlier.
Parce qu'en fait, quand on débute, juste avant de débuter une autopsie, on a une suite d'hypothèses diagnostiques. Donc on rencontre les gendarmes ou les policiers et on a pas mal d'hypothèses diagnostiques, une dizaine peut-être. Et au fur et à mesure du déroulement de l'autopsie, au fur et à mesure que le corps s'ouvre, se défait sous notre scalpel et s'offre à nous, si on peut dire, à notre connaissance, à notre vue, à notre palpé, tous les sens vraiment sont mis en exergue, sauf peut-être le goût, eh bien, mais ça c'est parfois accessible. Accidentelle. Ah, mais moi, je peux vous dire que j'ai parfois goûté, mais c'était purement accidentel. À chaque fois, on raye certaines hypothèses et on en ouvre d'autres. Dr House, c'est vraiment ce qui ressemble le plus à notre pratique. Il y a une vraie démarche diagnostique, il y a un vrai cheminement intellectuel, il y a un vrai échange avec les policiers et les gendarmes, et qui peut aller d'ailleurs jusqu'au cours d'assises. On est beaucoup plus présent en cours d'assises, à la fin, pour défendre notre dossier et le présenter de façon digeste à des jurys et des avocats que sur la scène de découverte du cadavre.
Mais c'est peut-être pas un hasard si Dr House est la plus proche, parce que Dr House est littéralement la série médicale la plus policière ou la série policière la plus médicale, puisque House a été créé en référence à Sherlock Holmes, House Holmes, et littéralement c'est un flic qui mène l'enquête sur une maladie ou sur un mal. C'est-à-dire que Dr House est structuré comme un polar. Avec le tableau, comme on voit dans les polars, avec alors quels sont les suspects, c'est le lupus, non, c'est pas le lupus, et ainsi de suite. Et donc, effectivement, on a un pied de chaque côté, ce qui peut-être expliquerait que ça soit ce qui est le plus convaincant pour vous.
Je reviens sur l'Institut médico-légal qui, il y a 3000 corps à peu près par an. Mmh. Je parle de Paris. Hein,
oui, qu'elle a rappé.
Voilà, qu'elle a rappé. Il y a 2000 autopsies, donc effectivement, c'est pas rien comme nombre. Et en fait, il a été créé par le baron Haussmann, hein, qui avait créé la première, pas celle-là, pas le cas de la rappée, puisque c'était dans l'île Saint-Louis, mais ensuite ça s'est transformé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que à l'époque des autopsies, de tout début des autopsies, mais je reviendrai tout à l'heure, vous reviendrez sur l'histoire des autopsies, on exposait les cadavres. Hein, on exposait les cadavres, il y avait 12 tables, et donc les cadavres étaient exposés, et derrière des vitres, et donc les gens venaient, c'était la sortie du dimanche, on venait voir, soit pour reconnaître, soit pour simplement voir ce que c'est que la mort de près avant que ça soit sous terre.
Avec les enfants, et puis le cadavre était nu pour bien qu'on puisse voir les cicatrices, les tatouages, les marques éventuelles, et les vêtements étaient pendus à un clou.
Et d'ailleurs, cette notion de spectacle, on peut dire comme ça, de l'autopsie, on le retrouve chez Samuel Weiss, je veux dire ce médecin autrichien qui a découvert l'origine de la fièvre puerpérale, en particulier donc en Autriche. Le goût de la médecine est venu parce qu'on allait assister dans des amphithéâtres à des autopsies publiques. Finalement, c'était, voilà, on faisait une autopsie devant les gens qui avaient envie de venir voir.
Le spectacle de la mort.
Le spectacle de la mort. Alors, c'est toute une histoire, bien sûr, la thanatologie, je dirais, où on ne peut pas faire ce métier sans faire référence au rituel de la mort, je suppose.
Et puis à l'exposition du cadavre, qui est un classique, qui est un poncif, si on peut dire, qu'on retrouve dans beaucoup de civilisations. On paye respect aux morts en présentant sa figure et parfois une partie de son corps. Donc la mort en fait a été escamotée de façon assez récente. Mais avant, on vivait avec la mort, on voyait les morts. Et les morts, ce sont tous les travaux de Philippe Ariès qui ont montré que ce n'est que depuis le milieu à peu près du XXe siècle que la mort a commencé à être escamotée chez nous en Occident. Mais avant, la mort faisait partie du quotidien.
Je pense à, vous savez, à ces portraits du Fayoum.
Oui.
Qui sont
anacostiques.
Elles sont assez extraordinaires parce que vous avez, justement, c'est la représentation vivante du mort.
Et on s'est rendu compte que c'était des portraits qui étaient extrêmement réalistes, puisqu'en travaillant à partir des scanners médicaux réalisés sur les crânes de ces momies égypto-romaines, principalement du nord de l'Égypte, eh bien, il y avait une réelle ressemblance entre la reconstruction crânio-faciale et le portrait du Fayoum, qui généralement était réalisé du vivant de ces gens-là, un peu à l'avant.
Oui, et il y a une esthétisation de la mort qui est très présente dans les séries. Alors évidemment, la série dont on pense le plus, c'est Six Feet Under, une série sur une maison funéraire.
Toute une famille
de Los Angeles. Chaque épisode commençait par la mort d'un personnage secondaire qui était ensuite le corps dont on allait s'occuper. Mais il y a eu aussi deux séries, il a fait mention de Dexter, mais aussi Hannibal. Série déclinée du même roman que Le Silence des Agneaux, qui est un des films, qui a marqué vraiment l'imaginaire avec Seven dans les années 90. De cette époque, on a commencé à montrer les cadavres et à les mettre en scène de manière plus ou moins esthétisée. Et Hannibal, qui est donc cette série qui parle de Hannibal lui-même, le cannibale, et où il est longuement mis en scène des empilements de corps où lui cuisine des corps humains, donc où il y a toute une mise en scène macabre, mais aussi extrêmement belle visuellement, qui fait penser à des toiles, à des natures mortes, etc. Et Dexter aussi avait ce côté, les tueurs en série de Dexter mettaient toujours les choses en scène de manière assez esthétique, à l'opposé complète de l'espèce d'ultra-pudeur des séries policières qui ont tendance à ne garder que le côté très lisse et très propre.
Avant de terminer cette première partie, la différence entre série et film, puisque vous faisiez Silence des Agneaux et votre spécialité est la série. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme message différent dans la série?
Pour moi, c'est juste deux formes artistiques cousines, comme vous diriez, la sculpture et la peinture. Sauf que bon, on est sur de la c'est de la fiction, voilà. La série télé étant partagée en épisodes et donc ayant une forme de récit plus étirée qui permet un plus grand développement des personnages et une plus grande complexité du scénario, là où le cinéma est plutôt un art visuel. et du coup qui permet d'être plutôt dans une expérience de l'instant, ce qui ne veut pas dire que la série télé n'est sans intérêt d'un point de vue de la mise en scène, mais le cinéma est enfermé dans 1h30, 2h30, 3h30 en fonction du temps, là où la série s'étire. Donc évidemment, on est allez plutôt comparer ça entre la différence entre une nouvelle et un roman. La série a plus de temps de développer son propos.
Matière à penser, René Friedman.
Voilà, vous êtes sur France Culture et nous parlons de cinéma et de médecine dans cette série de Matière à penser, ou d'une œuvre, quelle qu'elle soit, et ici c'est une série cinématographique, Body of Proof. Nous passons à la médecine qui est contenue dans la série ou dans l'œuvre, mais qui est développée par un acteur particulièrement actif dans ce domaine. Et ici c'est Philippe Charlier en tant que médecin et Pierre Langlais en tant que critique de films et de séries pour Télérama que nous recevons. Donc nous avons abordé ce film, la Body of Proof, qui montre donc ce rôle du médecin qui s'associe peut-être de façon un peu cinématographique, on va dire, justement, à l'équipe policière, qui n'est peut-être pas tout à fait toujours le rôle du médecin qui a fait donc cette spécialité, d'ailleurs spécialité qui a été validée depuis peu.
Oui, c'est maintenant une vraie spécialité médicale. Avant, c'était ce qu'on appelle un DESC, un diplôme d'études supérieures complémentaires. Maintenant, c'est un diplôme d'études supérieures directement, au même titre que maladies infectieuses, cancérologie ou gynécologie obstétrique, par exemple.
Exactement. Et alors, l'histoire de l'autopsie, elle est quand même marquée par des rejets, par des rejets ou par des adhésions, si on repart des Égyptiens.
Alors, les Égyptiens avaient une grande habitude de l'ouverture des corps, non pas du tout pour faire de la médecine égale, mais pour les pratiques d'embaumement, et ceci s'accompagnait d'une méconnaissance complète de l'anatomie et de la physiologie. On pourrait se dire, avec tous les millions, voire peut-être plus de cadavres qui ont été ouverts, simplement pour la partie supérieure des classes sociales, pour l'élite, ceux qui pouvaient se payer un embaumeur et les matières premières, on aurait pu croire que, oui, il y aurait une meilleure connaissance du placement des organes, de l'organisation interne, de la mobilité des flux internes. Absolument pas, c'était purement théorique, absolument pas pratique. Donc, sans méchanceté vis-à-vis de mes collègues égyptologues, mais un vrai échec sur le plan médical et physiologique pour l'Égypte pharaonique.
C'est juste en fait pour passer le Styx, hein, pour
oui, c'est le Nil en l'occurrence, oui, aller sur la rive ouest, la rive des morts, mm-hmm. Exactement. Mais pour le reste. Parfois même l'embaumeur, par accident, retirait le cœur, ce qu'il ne devait absolument pas faire. Il devait toujours laisser le cœur à l'intérieur de la momie. Dans ce cas-là, il remplaçait le cœur, l'organe, par un petit scarabée.
Et ce qui va se passer, c'est que pendant ensuite, après la période égyptienne, il y a un peu d'autopsies qui sont encore réalisées, mais la plupart vont être interdites par la religion. Catholique en particulier.
Alors, les premières autopsies et peut-être même vivisections qui ont eu lieu de façon organisée, planifiée et scientifique ont eu lieu à Alexandrie, dans ce qu'on appelle le musée, c'est-à-dire ce qui accueille les muses, donc 9 arts, sciences et lettres qui étaient accueillis là avec des savants. Et c'est là qu'ont eu lieu les premières avancées réelles sur le plan à la fois technologique, scientifique et anatomique et même physiologique, puisque des condamnés à mort étaient ouverts, vivants, ce qui permettait de voir la fonction de certains organes.
Ah, la médecine s'est développée sur des principes éthiques discutables, on va dire.
Discutables, actuellement. À l'époque, voilà, autre temps, autre mœurs, on dira, mais évidemment, c'est totalement inimaginable à nos yeux actuels, bien sûr.
Encore que, il y a eu malheureusement quelques histoires médicales pendant appelées sciences nazies qui évoquent un peu cette situation. Bien, passons.
Bon, on est bien d'accord que ce n'est pas de la science, bien entendu.
Bien sûr.
C'est une barbarie pure. L'autre chose aussi, c'est, on a souvent dit, et pour le coup, malheureusement, c'est une erreur qui est colportée, et on va profiter de cette occasion pour arrêter de la colporter, l'Église catholique ne s'est jamais opposée à la pratique des autopsies, des dissections, etc. Elle a cherché simplement à les canaliser, c'est-à-dire à ce qu'il n'y ait pas de vol de cadavres dans les cimetières, ce qu'il n'y ait pas de larcin de cadavres dans les morgues, auprès des familles, etc. Et donc, elle attribuait ou elle diminuait le nombre de corps devant être autopsiés chaque année dans les universités, principalement à Salerne, à Montpellier, principalement dans le pourtour méditerranéen, en Provence et en Italie du Nord. Mais elle ne s'est jamais littéralement opposée aux autopsies et n'a jamais dit « nous vous interdisons d'ouvrir des corps humains morts ». Mais elle ne voulait pas, et je peux comprendre, qu'il y ait des vols de cadavres et que ça devienne une véritable gabegie. Donc, profitons de l'occasion pour arrêter de colporter cette idée fausse.
Alors, le premier qui a, en tant que responsable politique, c'est Charles Quint, qui a ouvert aux chirurgiens, en cas d'homicide inexpliqué, en tous les cas, la possibilité d'examiner. Puis ça a été repris l'école de Montpellier, que vous citiez tout à l'heure, en particulier Mathieu Orfila, qui a laissé à Montpellier actuellement sa collection, la collection qu'on a appelée la collection Orfila.
La collection qui était à Paris Descartes.
Qui était à Paris Descartes et qui a bougé. Donc il y a des médecins, des scientifiques qui se sont penchés sur tout cet aspect, et en particulier Alphonse Bertillon, celui qui a essayé de comprendre les empreintes digitales.
Oui, Bertillon n'est pas médecin, Bertillon il est policier, il avait cet énorme avantage d'être très très organisé. Et lui, c'est un homme de classement, un homme de fiches. Et pour lui, tout doit absolument rentrer dans des cases. Et il va proposer un système de classement, de photographie systématique, à la fois de scènes de crime, mais aussi d'individus suspects et également de cadavres. Il va proposer un système d'enregistrement des preuves, d'enregistrement anatomique, de parties de corps également, qu'il s'agisse des empreintes digitales, vous l'avez dit, mais également la forme de l'oreille, la forme du nez, la forme des yeux, les différentes couleurs des téguments, etc. L'idée est qu'on puisse identifier le plus facilement possible un individu vivant, potentiellement l'auteur d'un méfait, mais également un individu mort pour clôturer définitivement un dossier, dire c'est la bonne personne qui est morte et renvoyer le dossier aux archives. Bertillon, c'est ça, le bertillonnage, c'est le classement jusqu'à l'extrême, mais une extrême qui est bénéfique si on peut dire, des vivants et des morts. C'est ça, c'est bien ce que fait le médecin légiste. Le médecin légiste, c'est un comptable des morts.
Est-ce qu'il va, je dirais, dans tous les cas, demander l'accord de la famille ?
On n'est pas à une période où ça se fait. Ça n'est pas une la période de Bertillon, c'est-à-dire toute fin du 19e et surtout le premier tiers du 20e siècle. On a une période où, de la même façon, le médecin ne demande même pas l'autorisation à la famille avant de pratiquer une autopsie. La famille est mise devant le fait accompli, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un adulte ou autre chose. Qu'il s'agisse d'une autopsie médico-légale, là d'ailleurs toujours actuellement la famille n'a pas son mot à dire, ou qu'il s'agisse d'une autopsie scientifique pour connaître la véritable cause de la mort.
C'est souvent demandé par la famille dans ce cas-là.
Qui dans ce cas, maintenant est demandé par la famille, mais à l'époque, la famille était le cadet du souci du corps médical. Et ceci jusqu'à une période assez récente.
Mais est-ce qu'on peut refuser d'être autopsié en cas de décès ?
Alors, on peut s'opposer à une autopsie sur ce qu'on appelle un registre national du refus, à la fois des greffes et des prélèvements anatomiques. Ceci, sitôt qu'on a l'âge de au moins 15 ans, on peut demander à être inscrit. Et c'est un fichier qui est interrogé systématiquement lorsqu'on demande une autopsie scientifique. Mais il y a deux types d'autopsies pour lesquelles il n'y a pas d'opposition possible, soit de la famille, soit de l'individu. C'est l'autopsie préfectorale, dans les problèmes infectieux, par exemple, grippe aviaire ou autre, la santé publique. Et le deuxième type d'autopsie, ce sont les autopsies médico-légales. Là, c'est la justice qui prime, c'est-à-dire le bien commun, plutôt que le bien individuel. Donc on ne peut pas s'y opposer et la famille ne peut même pas dire « Non, je ne veux pas que mon proche soit autopsié ». Non, la justice passe et elle s'impose.
Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour la restitution du corps et pour la dignité, je dirais, après ces examens.
Oui, et c'est une très bonne chose. On explique, heureusement le médecin légiste interagit énormément avec la famille une fois que l'autopsie est terminée, dans la restitution des résultats, et on peut les voir une fois que l'affaire a été classée avec l'autorisation des policiers ou du procureur. Et les familles sont souvent étonnées, car le corps est en meilleur état après l'autopsie qu'avant. Le corps est décongestionné. On revient un peu sur l'esthétisation du corps dans les séries, mais là, pour le coup, ça touche à la réalité. Le visage est moins bouffi, le corps est beaucoup plus, je dirais pas beau, car j'ai pas à dire beau ou moche pour un corps, c'est un patient, donc j'ai pas à porter de jugement de valeur, mais le corps est beaucoup plus apaisé après le passage du médecin légiste. Je parle pas de l'embaumeur, je parle pas des soins de conservation, mais le sang ayant été prélevé, le corps ayant été... on a vraiment pris soin. C'est-à-dire qu'on est là pour avoir un diagnostic, pour avoir des informations scientifiques, des informations pour la justice, mais aussi pour lui redonner une forme la plus convenable possible. Et le dernier regard qu'une famille va porter sur un défunt est extrêmement important. C'est probablement un des derniers souvenirs qui va être un des plus vivaces, un des plus profonds pour les proches. Et il faut absolument que le travail du légiste et de la recomposition du corps soit bien faite.
Et c'est surtout le visage.
C'est surtout le visage, ça peut être les mains aussi. Lorsque le visage est altéré, par exemple un tir de carabine en plein visage, le visage est escamoté, c'est le mot qui est utilisé. En fait, il n'est pas forcément montré à la famille, mais la famille peut toucher les mains. Les mains. Je me souviens, j'avais eu un maître en médecine qui s'appelait Claude Matuszanski, et Claude Matuszanski, qui était gastro-entérologue, me parlait toujours des mains. Pour lui, la main est un organe extrêmement important. Une autre personne que j'ai croisée dans ma vie, Jean Mallory, me parle également de l'importance des mains, cette fois-ci en anthropologie. Et le pouvoir de la main, la visibilité de la main, le toucher de la main, après la mort, est extrêmement important. Et donc, c'est une autre zone anatomique qui, pour nous, est prépondérante.
Pierre Langlais.
Par rapport à ce qu'on disait là, évidemment, ce qu'il y a d'important dans la fiction, dans le cinéma, mais aussi dans les séries, c'est évidemment toutes les scènes où les familles sont confrontées, on en parlait, qui sont d'ailleurs, j'imagine que ça doit se faire aussi en France, mais moi, je suis, comme vous savez, ces gens au tribunal qui disent objection votre honneur, alors que ça se dit pas dans les tribunaux français. C'est-à-dire que je n'ai une connaissance de la mort qu'à travers les séries américaines, mais où on vient identifier la victime toujours. Il y a toujours cette séquence où on soulève le drap et on vient identifier. J'imagine que ça doit se faire parfois en France. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est.
C'est un mode d'identification qui est assez rare pour des raisons de pudeur et de protection de la famille. On préfère plutôt présenter des preuves scientifiques, type de dactyloscopie, dactylographie, c'est-à-dire l'étude des empreintes digitales, d'autres zones anatomiques, l'identification par l'ADN évidemment, par des marques sur le corps, tatouages, cicatrices, etc. Ou directement une sur photographie, lorsque la photographie est faite. Mais la confrontation directe avec le cadavre est un peu... Elle se fait, c'est vrai, elle se fait, mais elle est un peu difficile. Je sais qu'à l'Institut médico-légal, par exemple, les présentations des familles se faisaient assez longtemps derrière une vitre, sans confrontation directe, sans possibilité de toucher le corps. Ce qui peut être tantôt facilitant pour la famille, tantôt extrêmement frustrant.
Comme vous parliez justement de toutes ces preuves qui peuvent être apportées. Je voulais apporter une dernière chose qui est intéressante, c'est ce que les Américains ont appelé le CSI effect et qui a été très longuement débattu dans des universités les plus sérieuses aux États-Unis. Donc littéralement l'effet les experts, CSI étant le titre américain des experts, qui est comment la science, la médecine légale en faisant partie, a profondément fait évoluer le regard des citoyens américains sur la justice et sur comment un certain nombre d'États américains ont fini par demander aux jurés, puisque vous devez savoir qu'aux États-Unis, quand il y a des jugements, il y a un jury populaire qu'on a le droit de sélectionner ou pas. C'est-à-dire que les avocats ont le droit de dire voilà, pour telle raison, je refuse ce juré-là. Eh bien, à une époque, on disait est-ce que vous regardez les experts? Et si quelqu'un disait oui, je regarde les experts, on disait pour moi, ce juré-là n'est pas viable parce que potentiellement, il va exiger des preuves scientifiques, il va exiger une autopsie qui révèle des choses, et du coup, la justice, le système judiciaire et beaucoup les universitaires américains ont pendant des années débattu sur l'impact que pouvaient avoir ces séries suivies par des dizaines de millions de téléspectateurs et qui potentiellement pouvaient voiler le regard qu'on pouvait porter sur ce qui était la justice et sur les preuves qu'on avait besoin d'apporter. Et donc indirectement, le travail du médecin légiste devenait problématique, si j'ose dire, pour un certain nombre d'avocats, puisque il a été des cas, dit-on, de jugement où il y avait eu un témoin oculaire et parce qu'il n'y avait pas de preuves médicales, le jury avait acquitté le suspect.
Dans les preuves médicales, justement, est-ce qu'il y a un développement avec la biochimie, avec le microbiome, avec le transcriptome? Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que vous utilisez, par exemple, beaucoup cette étude génétique? Est-ce que ça peut vous donner une date du décès?
Oui, il y a de vraies voies de recherche vis-à-vis de l'implication du microbiome dans l'amélioration de ce qu'on appelle le délai post-mortem, c'est-à-dire le délai entre la mort et la découverte du cadavre. Il y a également beaucoup de...
Alors, peut-être pour expliquer pour nos spectateurs, parce que...
Oui, le microbiome, en fait, c'est cet ensemble de virus, bactéries, parasites, parfois champignons également, qui est à la surface de l'ensemble des muqueuses du corps, et on se rend compte de plus en plus aussi à l'intérieur de certains organes. Il y a même un microbiome cérébral qui a été mis en évidence, et c'est spécifique de tel ou tel individu, spécifique également de tel ou tel groupe social, et ça varie en fonction du temps, de la journée, de l'époque, de l'alimentation, de la prise de médicaments. Donc c'est quasiment une sorte de second ADN, si on peut dire, sur le plan médico-légal ou sur le plan scientifique qui peut permettre d'identifier certains individus. On peut identifier certains fluides en l'absence d'ADN, peut-être par une confrontation du microbiome entre ce fluide et les fluides toujours présents à la surface du corps d'un individu. On peut utiliser également la toxicologie. Je vous donne un exemple. Quand j'avais travaillé sur la tête d'Henri IV, on avait voulu comparer l'ADN d'une mèche de cheveux d'Henri IV conservée à Pau avec l'ADN issu de la tête d'Henri IV. L'ADN était trop fragmenté, on ne pouvait pas le faire. En revanche, on a mis en évidence beaucoup de plomb à l'intérieur, à la surface de la tête et à la surface des cheveux qui provenaient vraisemblablement d'un contenant en plomb. Comment comparer du plomb avec du plomb? Eh bien, on a travaillé sur le rapport isotopique, les différents types de plomb qui constituent cette saleté, si on peut dire, de surface. Et on a pu montrer que c'était le même rapport isotopique, c'est-à-dire les différents types de plomb qui étaient présents à la surface des cheveux et à la surface de la tête. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le même individu, mais ça veut dire qu'ils ont été contenus pendant un temps très long dans le même contenant, en l'occurrence un cercueil de plomb. Donc, ce sont des techniques qui sont purement médico-légales, mais qu'on applique au domaine de l'archéologie ou de l'histoire. Pareil, quand on recherche une intoxication, notre méthode de travail sur l'identification d'une intoxication chronique en or sur les cheveux de Diane de Poitiers, elle est directement inspirée des techniques médico-légales. Pareil pour le mercure sur Agnès Sorel. Pareil pour quand on avait travaillé sur les reliques fausses, hélas, de Jeanne d'Arc, conservées à Chinon. Eh bien, on avait pu montrer que c'était des fragments de momies égyptiennes du 7e, 5e siècle avant Jésus-Christ qui avaient été réutilisés par un apothicaire au moment du procès de béatification de Jeanne d'Arc à Orléans. Il avait pris ça dans son officine, tout simplement, c'est de la mumia. On utilise ça pour traiter les hémorroïdes, les métroménorragies, etc. C'est un soi-disant un bon hémostatique, donc ça arrête les saignements. Et il avait présenté ça comme une relique. Donc c'est un beau faux historique qui a servi la cause de la béatification. Mais quelle méthode on a utilisée? Eh bien, l'identification de restes charbonneux, carbonisés, tels qu'on l'utilise couramment dans des enquêtes criminelles, quand quelqu'un a voulu se débarrasser d'un cadavre en brûlant une voiture avec le corps à l'intérieur.
Alors justement, puisque vous parlez de ça, je dirais, dans ces circonstances particulières, l'examen devient difficile. Et est-ce qu'on voit un développement de la virtopsie, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une image virtuelle qui ne soit pas l'autopsie, au sens où il n'y a plus de gestes d'ouverture, mais vous avez quand même une imagerie qui a fait beaucoup de progrès et qui peut vous donner des renseignements.
Oui, la virtopsie, c'est-à-dire le scanner post-mortem, le fait de passer un corps mort plus ou moins altéré au scanner est de plus en plus développée. C'est même quasiment obligatoire d'après les critères européens de médecine légale. Pour des raisons pratiques, ça n'est pas tout le temps réalisé, mais c'est quasiment systématique pour les carboniser, pour les putréfier, pour les fragmenter et pour les cadavres X, ceux pour lesquels le corps arrive sans identification préalable. Et c'est utile pour plusieurs raisons. D'abord, ça nous permet d'aller dans des régions où l'autopsie n'est pas très très efficace. Quand on ouvre un corps, il y a des régions qui sont mal explorées. La face postérieure du corps, entre les côtes et la face profonde des muscles. Ça, c'est plutôt mal exploré. Les creux axillaires aussi, c'est-à-dire au niveau de l'intérieur de nos épaules et là où s'insèrent les deux membres supérieurs. Pareil au niveau de l'intérieur des cuisses ou des jambes. Ce sont des zones qu'on ne va pas systématiquement voir. Évidemment, avec le scanner, on y va systématiquement. L'autre chose aussi, c'est quand ensuite on se retrouve à présenter nos résultats en cours d'assises, c'est quand même beaucoup plus neutre et beaucoup moins traumatisant pour la famille, mais aussi beaucoup moins influençant, si je peux dire, vis-à-vis du jury, de présenter des photographies noir et blanc correspondant à des images de scanner plutôt qu'une photographie sanglante, même si on travaille le plus proprement possible, mais c'est quand même du sang, c'est quand même un cadavre, directement projeté en 4x3 dans la salle d'audience. Donc c'est moins traumatisant, c'est beaucoup plus informatif et surtout ça ne fait pas pencher la balance de la justice d'un côté plutôt qu'un autre. Donc ça a énormément d'avantages, la virtopsie, mais ça ne remplacera jamais une autopsie pure et dure. On a toujours besoin d'ouvrir un corps mort, ne serait-ce que pour prendre des échantillons pour la toxicologie et pour la microscopie, c'est-à-dire la napate.
Est-ce que la détection faciale qui se développe de plus en plus pourra servir à identifier?
Oui, alors là, le pays le plus en pointe dans ceci, c'est la Chine, qui va nous donner de grandes leçons dans l'identification faciale. C'est vraisemblablement un domaine dans lequel la médecine légale, à la fois clinique et la médecine légale thanatologique, va faire une grande avancée dans les années à venir.
Est-ce que, Pierre Langlais, dans les séries que vous avez vues et que vous allez voir, que vous savez qui se font, est-ce qu'il y a un peu ce côté historique de trouver les crimes inexpliqués, ou est-ce que c'est toujours d'actualité, particulièrement aux USA, quoi? On est envahi par ces séries-là, avec tous les types, quoi, de la famille, les problèmes familiaux, les relations entre le responsable et ses enfants, enfin, tout se mêle à la psychologie américaine.
Oui, la série historique en soi est un genre. Il y a même eu des séries médicales historiques.
Oui, je parle de ça.
Oui, bien sûr.
Dans le thème.
La plus réussie d'entre elles s'appelait The Nick. Elle était entièrement réalisée par Steven Soderbergh et jouée par Clive Owen, et elle racontait le quotidien d'un hôpital new-yorkais. Voilà. Et vous parlez d'un spectacle de morbide. Les opérations sont pratiquées en amphithéâtre et se finissent rarement très très bien. Et sans vouloir trop spoiler, le héros lui-même finit par s'opérer lui-même sur sa table d'opération à l'aide d'un miroir. Scène particulièrement pénible et série déconseillée à l'heure du déjeuner.
on en prend note. En ce qui vous concerne, Philippe Charlier, je sais que sur l'histoire de la tête Henri IV, ça a été contesté par certains.
Ça l'a été, oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment de preuves pour vous conforter dans votre sentiment ?
Oui, maintenant c'est fini. La balance penche définitivement du côté de l'identification, puisqu'on a confronté, c'était un argument assez massu, si je peux dire, on a confronté dans tous les points de l'espace, sur un nombre infini de points, on a scanné le masque mortuaire de 1610 de Henri IV, et on l'a superposé sur le crâne et le visage de cette tête, et sur tous les plans de l'espace, sur un nombre infini de points, on a une correspondance anatomique. C'est pour le coup un argument médico-légal qui est imparable et qui vaut mieux que tout l'ADN du monde.
Parfait, mais écoutez, nous voilà, rassurés
sur le cas.
Rassurés d'une part, oui, non, mais je veux dire surtout, on a ouvert quand même, non pas les corps, mais quelques réflexions sur cet art de la connaissance du corps et de ce qu'il signifie, hein, de l'humanité du corps. Merci de votre présence à Philippe Charlier, médecin légiste, anatomopathologiste, et à Pierre Langlais, critique de film pour Télérama. Cette émission s'est faite grâce aux activités extrêmement vivantes de Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Romain Masson, Claude Niort et Justine Wilde. Nous continuerons donc toute la semaine à vous parler de cinéma et médecine, et à demain pour écouter à la carte de ces thématiques médicales et cinéma.